enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Luc chapitre 5, un passage très connu. Je voudrais le relier à ce que nous avons vu comme message ces deux dernières fois sur l'art de bien vivre. On avait vu la première fois que en fait, quelque part, bien vivre démarre avec une valeur fondamentale, c'est de craindre Dieu par-dessus tout. Crains Dieu et marche avec lui. Et puis, ça c'est ma fille, voilà, ça c'est ma fille. Je la reconnaîtrai parmi toutes les filles du monde. C'est la mienne. C'est bizarre quand même, hein. Arriver à 45 ans pour vivre ça, c'est vraiment chouette. Et puis nous avons vu aussi que une vie bien, une vie qui se mène bien, une vie qui se vit bien, elle est marquée par le fait qu'elle a une direction, elle a un sens. Isaïe avait vu le Seigneur. Et parce qu'il l'avait vu, il avait conscience combien il était pécheur. Et quand Dieu lui a pardonné ses péchés, quand l'ange est venu avec les braises toucher ses lèvres impures, eh bien il a été pardonné. Et après cela, il a entendu l'appel de Dieu. « Qui enverrai-je ?» Et Isaïe dit « Me voici, si tu veux, j'y vais. » Et sa vie a pris une direction. Ce soir, je voudrais voir avec vous un passage avec l'apôtre Pierre et comment Jésus a transformé sa vie et comment Jésus a opéré plus que simplement lui communiquer une direction, un sens à son existence. Il a littéralement transformé son identité. Son véritable moi a changé. Lisons ensemble ce passage où il fait mention que Jésus était venu, qu'il avait été au bord du lac de Galilée. Il avait emprunté la barque de Pierre qui avait pêché une nuit complète sans rien prendre pour lui servir d'estrade. Et puis quand il avait fini de prêcher, pour remercier le marin pêcheur de ce prêt, un petit peu, je dirais, rapide et obligatoire, eh bien, il l'invite à aller vers des eaux plus larges et à jeter le filet. Et le marin pêcheur expérimenté, qui est Pierre, lui dit, « Seigneur, on n'a rien pris toute la nuit. Autrement dit, qu'est-ce que tu veux qu'on prenne en journée ?» Mais il obtempère et il dit la fameuse phrase, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Il l'a jeté et au miracle, il a fait une pêche extraordinaire, à tel point que la barque s'est enfoncée, qu'il a appelé ses amis au secours et que les barques étaient pleines et que là, s'est passé quelque chose d'important. Lisons ce verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, l'associé de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Pierre était un pêcheur de poissons. Pierre était là. Comme beaucoup d'hommes, il devait se débrouiller pour gagner son pain. Mais Pierre n'était pas conscient de la destinée que Jésus avait en réserve pour lui et de l'opération de transformation qu'il allait manifester et opérer en lui. Et j'aimerais ce soir parler de ce thème tout simple, se connaître soi-même, savoir qui on est. Il y a tellement de gens sur terre qui finalement végètent. Ils vivotent. Oui, ils vivent, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ni qui ils sont, ni vers où ils vont. Et bien souvent, une infinie, je dirais, ribambelle de problèmes interpersonnels dans les équipes de travail, que ce soit dans le séculier ou dans le spirituel. Il y a des conflits parce que quelque part, les gens ne sont pas intérieurement en paix avec eux-mêmes. Et ils ont besoin de savoir qui ils sont, à quelle place Dieu les veut, et à vraiment jouer leur mélodie. Lorsque le luthier crée un premier violon, il joue la mélodie d'un premier violon. Lorsque le luthier crée un deuxième violon, il joue la mélodie du deuxième violon. Et lorsque le luthier invente ou forme une grande basse ou un violoncelle, eh bien, chaque instrument joue sa mélodie. On n'a jamais eu l'idée de faire jouer aux trompettes la mélodie de la contrebasse. Chacun a sa place et les moutons seront bien gardés, n'est-ce pas? Mais des fois, on a des gens qui vivent comme des caliméros alors qu'ils pourraient vivre comme des poissons dans l'eau. Jusque-là, l'apôtre Pierre était comme un caliméro. Il devait se débrouiller tout seul pour gagner sa croûte et faire vivre sa famille. Mais lorsqu'il a rencontré le Christ, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a finalement découvert qui il était vraiment. Et Jésus le lui révèle et lui dit, mais d'un pêcheur de poissons, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et à partir de là, sa vie a pris un virage. Sa vie a trouvé un sens. Et non seulement cela, il a découvert son identité, qui il était réellement. Qui es-tu ce soir? Qui êtes-vous? Savez-vous qui vous êtes? Qu'est-ce qui définit votre personnalité? Qu'est-ce qui définit votre identité? Est-ce que c'est votre poste? Monsieur le superviseur? Monsieur le principal? Monsieur le pasteur? Votre fonction? Votre rôle, vous êtes père, ou grand-père, ou mère. Et lorsque ces choses-là disparaissent, lorsque sonne l'heure de la retraite, combien d'hommes et de femmes d'ailleurs, tout à coup, ont le sentiment de perdre toute valeur. Parce qu'ils ne sont plus monsieur le superviseur, ou madame la comptable en chef. Ils ne sont plus que madame, et encore, c'est Ginette qu'elle redevient. Savez-vous qui vous êtes? Pierre savait-il qui il était? Qu'en est-il de vous, de moi, lorsque le jour viendra où les titres et les rôles seront enlevés? Combien de mamans, tout à coup, perdent de pied, perdent les pédales ou pédalent dans la choucroute parce que tout à coup, les petits, pour qui elles ont tellement investi de temps et d'énergie, eh bien, s'envolent. Et elles ne sont plus la maman chérie à qui on saute au cou à midi ou le soir après l'école. Alors on se rabat sur les petits-enfants. C'est très bien aussi, mais les petits-enfants, eux aussi, un jour vont s'envoler. Et convoler en de justes noces. Qui es-tu? Qui suis-je? La parole de Dieu, la Bible nous parle de toutes sortes de batailles, mais pratiquement toutes les batailles sont une bataille autour de l'identité. La bataille de Ève avec le péché dans le jardin d'Éden. Remarquez la parole insidieuse du diable. Il lui dit, si tu manges de ce fruit-là, no problem, tu seras comme les dieux. Elle n'était qu'une créature et voulait se prendre pour Dieu ou pour une divinité. Et en voulant jouer l'ange, elle a fait la bête. Et Adam avec. Lorsqu'on voit Jésus, la bataille se tournait autour de son identité. Est-il vraiment le Messie? C'était la question qui l'a amené à la croix. Es-tu le Messie? Et puis, les batailles dans les vies des grands patriarches. Abraham est devenu Abraham, père d'une multitude. Jacob, on le connaît bien, n'est-ce pas? Le fourbe, celui qui était tordu, eh bien, Dieu va littéralement changer son identité dans Genèse 37 au bout d'une longue bataille nocturne où il y aura un face-à-face avec Dieu et où Dieu lui pose une question simple et lui dit mais quel est ton nom? Comme si Dieu devait demander à Jacob quel était son nom, le Dieu omniscient. Mais Dieu voulait lui montrer un miroir et lui dire mais regarde qui tu es. Tu es Jacob. Ton nom est ton identité. Tu es Jacob. Mais maintenant je t'appelle Israël. Voici l'aurore d'un jour nouveau, avons-nous chanté avant. Dans la vie de Jacob, il y a eu un nouvel aurore, une nouvelle journée, où Jacob n'était plus le fourbe, mais celui qui a pris ses responsabilités, qui au lieu de fuir est passé devant tout le monde et était prêt à encaisser pour ses erreurs passées. Quel changement, n'est-ce pas? Qui es-tu ? Les Juifs sont persécutés à cause de leur identité, parce qu'ils sont juifs. Et les chrétiens, parce que l'Esprit de Dieu demeure en eux, sont eux aussi persécutés à bien des endroits dans le monde. Alors où trouver sa véritable identité ? Savez-vous qui vous êtes ? Sais-tu qui tu es ? Sinon, tu cours le risque, mon ami, en ne le sachant pas, de vivre comme un poisson hors de l'eau. Dimanche soir, mon beau-frère nous a amené une grande carpe qu'il avait pêchée. Et la carpe n'était pas encore morte. Elle était là. J'exagère volontairement le bruit. Elle était muette comme une carpe. C'était le cas de le dire. La pauvre carpe cherchait de l'eau pour ses bronches. Elle vivait comme un poisson hors de l'eau. Mais remettez la carpe dans l'eau et elle était de nouveau bien. Lorsque Jésus a rencontré Pierre, lorsque Pierre a découvert qui était Jésus, il a découvert qu'il était pécheur. Mais Dieu le voit et lui pardonne et le remet sur orbite. Il l'amène comme un poisson à aller dans l'eau. Tu étais pêcheur de poissons, maintenant tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Alors, allons voir un petit peu notre modèle ultime, Jésus, et sa personnalité, et son identité à lui. Dans Luc 2, 3 et 4, nous trouvons le personnage, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, pleinement homme aussi. Eh bien, il s'égare dans Luc 2, il s'égare dans le temple. Il a 12 ans, et il est avec ses parents partis à la fête à Jérusalem, fête religieuse de Pâques. Et au bout de 3 jours, tout le monde rentre à la maison. Les parents pensent que Jésus est avec les cousins, qu'ils s'amusent en cours de route et qu'ils suivent la caravane. Alors qu'au bout de quelques temps, ils se rendent compte que Jésus n'était pas parmi eux. Et ils ont dû retourner à Jérusalem. Et d'à Jérusalem, ils trouvent Jésus dans le temple à discuter avec les pharisiens, les docteurs de la loi. Et lorsqu'ils lui disent, mais Jésus, nous t'avons cherché avec angoisse. Pourquoi tu nous as fait ça? Écoutez-moi la réponse de Jésus. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ah, franchement, ma gamine de 12 ans me demande pourquoi je la cherche au bout de 3 jours de disparition. Hé, ma fille, t'es ma fille, tu vas rester chez moi. Et Jésus lui répond, mais ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Jésus savait qui il était. Jésus savait qui il était. Et il avait un sens et une motivation et un but dans sa vie. Et c'est pourquoi que Jésus était au clair de quelle était sa mission. Il savait d'où il venait, il savait où il allait, et du coup, il était pleinement en paix avec lui-même. Et Jésus avait cette force parce qu'il avait grandi de manière, je dirais, holistique. Verset suivant, il est marqué, verset 52. 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il avait grandi à tous les niveaux de sa personnalité, intellectuellement, socialement, spirituellement et physiquement. Il avait grandi de manière complète. Il savait aussi qui était son père et ce que ce père attendait de lui, même si là, il était un peu décalé dans le timing. Mais remarquez voir les conséquences d'une telle connaissance sur lui-même. Jésus avait une assurance absolument remarquable. Quelque temps plus tard, il est sur la barque avec les disciples, il s'endort, il est fatigué. La tempête se lève. Et tout le monde est inquiet. Et les marins pêcheurs qui étaient les disciples savaient combien une telle tempête sur la mer de Galilée pouvait être dangereuse. Mais Jésus dort. Comment peut-on dormir quand le bateau est en train de couler? C'est comme si les gens étaient sur le Titanic et dormaient pendant qu'il coule. Et Jésus de dire, mais pourquoi avez-vous peur? Et pourquoi a-t-il pu dire ça? Parce qu'il savait que son heure n'était pas encore venue. Et il savait qu'en face de la mer de Galilée, il y avait un homme qui avait besoin de la délivrance qu'il allait lui apporter. Et qu'il y avait là les éléments naturels qui s'étaient levés pour l'empêcher d'aller accomplir son ministère. Et Jésus s'est levé et il a ordonné au vent et à la mer de se calmer. Remarquez aussi la paix et l'assurance que Jésus avait face à ceux qui venaient l'arrêter dans Jean 18. On apprend là que dans le jardin de Gethsémané, on est venu l'arrêter, il y avait là de la foule avec des bâtons, des cordes, il y avait des gens bien armés jusqu'aux dents. Mais Jésus dit, qui venez-vous arrêter? Ils lui répondent, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Il a à peine dit ces phrases-là qu'il est dit qu'ils reculèrent et tombèrent à terre. Honnêtement, si vous savez que l'arrestation est devant vous et que la mort est devant vous, à ce moment-là, vous partez. Mais lui avait de l'assurance, une autorité, parce qu'il savait qui il était et pourquoi il était là et où il allait. Et finalement, lorsque Caïphe, le sacrificateur, lui demande « Mais es-tu vraiment celui que tu prétends être, le Fils de Dieu, le Christ ?» Et il savait là, Jésus, que ces gens-là étaient prêts à le mettre en morceaux. Si vraiment, à ce moment-là, il avait douté de qui il était, il aurait suffi qu'il dise « Ben finalement, peut-être c'est pas moi, peut-être c'est Jean-Marie, tiens, pourquoi pas ?» Il aurait pu se défausser. Mais Jésus lui dit, tu l'as dit. Et le grand prêtre de se fâcher, lui dit, mais voilà, blasphème. Quelle assurance quand on sait qui on est. Et Jésus savait qui il était et quel était son rôle. Mais combien de gens sur terre, même dans le peuple de Dieu, eh bien, se bagarrent avec leur propre identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Ont des conflits avec eux-mêmes, sont jamais à leur place, veulent toujours se prouver ou s'imposer. Ou alors ils ont peur de prendre des risques parce que ils se sentent caliméro. Toujours eux, les pauvres petits, n'est-ce pas? À qui tombe tout son coin de la figure. Dans Luc 3, on retrouve Jésus au baptême. Et à ce baptême, eh bien, c'est pas Jésus qui reconnaît son Père, c'est le Père qui reconnaît le Fils et qui approuve son Fils avant qu'il ne parte dans son ministère. Il l'approuve d'en haut. Voyez-vous, Jésus n'a pas besoin de s'imposer pour attirer la faveur de Dieu et être certain que lui c'est avec lui. Non, il était. Il savait qui il était et il attendait que Dieu l'approuve pour l'élever et pour le faire avancer. Dans le monde, on est obligé d'en imposer à force de poignets, etc. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui fait avancer les choses. Et c'est Dieu qui nous fait progresser. Et c'est Dieu qui élève l'un ou l'autre. Et c'est pas la peine de jouer des coudes, de vouloir en imposer à tout le monde. C'est pas la peine. Parce qu'avant de faire, il s'agit d'être. D'être quoi ? D'être d'abord des enfants de Dieu, qui se savent profondément aimés de Dieu. Un des versets que je trouve fantastique, c'est 1 Jean 4, verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous appelle ses enfants. Hello, il m'appelle son enfant. J'ai deux petites filles, mais elles sont à moi. C'est mes filles, c'est os de mes os, chair de ma chair. Elles portent mon nom. Elles portent mon identité, ça se voit sous le faciès. Zoé, c'est moi. Emma, c'est sa mère. Et un jour, quand je disparaîtrai, ma femme aussi, il y aura pour elle un héritage qui leur appartiendra parce qu'elles sont mes enfants. Maintenant, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'esprit de vie en eux, sont devenus des enfants de Dieu. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ils n'ont pas à prouver qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Et à partir de là, chaque matin, ils peuvent dire, papa, bonjour. Quelle est la bonne aventure qu'on a à vivre ensemble aujourd'hui? Quelle est la bonne chose à faire ensemble aujourd'hui? Tu as liberté. Tu peux intervenir comme tu veux. Je veux t'obéir. Je veux marcher avec toi. C'est pas beau, ça? Et dans Luc 4, on trouve de nouveau Jésus, qui est contesté dans son identité. C'est le diable qui vient attaquer, et qui vient lui dire, mais si vraiment tu es le Fils de Dieu, Si vraiment tu es ce que tu prétends être, alors change donc ces pierres en pain. Saute du temple, montre-nous qui tu es. Allez, mets-nous en plein la vue. C'est pas la peine, parce que Jésus savait qui il était. Et c'est pourquoi il n'est pas entré dans le jeu du diable. Parce que Jésus tirait sa personnalité, son identité profonde de la relation avec son Père céleste. Alors devinez où nous allons trouver notre identité. Où nous allons trouver notre identité et finalement être en paix avec nous-mêmes et pouvoir vivre avec les autres. Vivre avec chacun de mes frères sans me sentir menacé parce qu'il est plus compétent ou plus compétente que moi dans tel ou tel domaine. Je vais la tirer de ce cœur du Père qui a pour moi aussi un refuge. Parce que voyez-vous, dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10, il est dit que nous avons été créés. Nous sommes son ouvrage, est-il marqué. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Tous ceux qui sont nés en Jésus-Christ, qui ont la vie nouvelle en eux, ils sont son ouvrage. Et Dieu les a façonnés pour un but précis. Les uns seront pasteurs, d'autres ne le seront pas. Mais peu importe, pourvu que tu sois et que tu deviennes ce que Dieu a voulu que tu sois. Ça évite tout esprit de rivalité, de compétition. Je peux vivre en paix avec mes frères parce que je sais qu'il y a une place pour chacun et qu'il y a des bonnes œuvres préparées d'avance. Je n'ai plus à les produire, je n'ai plus qu'à entrer dedans, à entendre, à discerner sa voix et à entendre dans ce que Dieu veut que je fasse. Et du coup, je vais collaborer comme la pièce d'un puzzle. Je vais me mettre dans la bonne partie du puzzle et jouer mon rôle à moi. Et si je suis un second violon, je vais jouer une mélodie de second violon. Amen. Vous me suivez toujours là? Si je vous ennuie de trop, vous me le dites, je peux m'arrêter. Voyez-vous, une juste et bonne identité devrait être au-dessus de ce que nous faisons. Souvent, nous pensons que nous sommes ce que nous faisons. Voilà, un tel a réalisé, je sais pas quoi, il a réalisé telle entreprise. Une telle femme a fait telle œuvre magnifique, Mère Teresa et ou je ne sais trop qui d'autre. Et on se dit, ça y est, lorsque j'aurai réussi un tel acte éblouissant, on va enfin savoir qui je suis. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça dans l'œuvre de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu fait l'inverse avec toi. Et d'abord de te dire qui tu es, te révéler qui tu es. Pour que tu entres dans ce que Dieu veut que tu fasses. Longtemps, j'ai bagarré avec le fait que j'étais, entre guillemets, réduit à être instituteur. Vraiment, je me sentais réduit. Mais qu'est-ce que je fous au fond d'une salle de classe du Haut-Sungo avec des enfants de 3 à 7 ans? Ah, franchement, qu'est-ce que je fais là-dedans? Moi, je me voyais faire autre chose. Une carrière, je sais pas moi, d'avocat, de ceci, de cela. Et vous savez, on vous en met dans la tête à 15, 16 ans. Et ça continue à 18, 20 ans. On vous pousse à aller, vas-y, progresse, avance. Et il faut progresser et il faut avancer. Mais entre poursuivre un appel intérieur pour être ceci ou cela et se pousser dedans pour éblouir les autres et en imposer à tout le monde pour qu'enfin on puisse se dire, ah mais ce garçon, qu'est-ce qu'il est bien. Le jour où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu as voulu que je sois dans ce métier-là, je veux le faire avec joie. Je ne veux pas le subir. Je veux le faire avec joie. Je veux m'occuper avec joie de ces petits-enfants que tu me mets entre les mains. Et je veux être le meilleur instituteur de France auprès d'eux. Je veux honorer ces jeunes vies, être un modèle pour eux, avoir sur leur vie une influence positive. Je veux qu'au travers de moi, ils voient l'image de Christ pour eux. Tu as dit, venez à moi les petits-enfants. Eh bien, je les ai tout proches de moi. Tous les jours, j'ai en face de moi des petits êtres malléables. Et je peux leur distiller les vérités de Dieu. Je peux les encourager à oser regarder vers le ciel et à prier. Et certains jours, même on priait. On priait même souvent. Et ça marchait. Et un matin, un petit garçon m'avait dit, « Mais monsieur, vous avez prié ce matin et ça marche. » Mais vous savez quoi? La vraie maturité, c'est d'être en paix avec ce que Dieu a voulu qu'on soit. Je n'ai pas la peine de m'imposer pour en montrer plein la vue de tout le monde. Non, je suis ce que je suis. Et je vais être ce que Dieu veut que je sois. Voyez-vous, vous valez plus que la dernière performance que vous avez faite au boulot. On est tous évalués, et c'est bon d'évaluer les choses, de faire des pointages, mais nous valons beaucoup plus que ça. Je vaux plus que ma dernière prêche. Je peux rater une prédication. Je peux un jour monter ici et franchement prêcher en l'air, quoi, dans le sens à côté de mes chaussures. Je peux. Ça peut arriver. Un chanteur peut un jour chanter de travers. Est-ce que pour autant c'est pas un bon chanteur? Mais non, chacun peut un jour avoir une mauvaise performance. Je vaux plus, tu vaux plus que ta dernière performance. Amen. Alors vous me direz, mais ça c'était Jésus, mais Jésus c'était Jésus, c'était le Fils de Dieu. Moi j'en aime quelques-uns dans la Bible comme ça qui me sont agréables, parce qu'ils sont comme moi, ils sont des humains. Je pense à Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, il avait pendant un temps une carrière exceptionnelle, n'est-ce pas? Il prêche, la foule le suit. Même les grands prêtres, enfin le grand prêtre, les docteurs de la loi, les pharisiens viennent et se convertissent et se font baptiser, se repentent, etc. Et alors un jour, à un moment donné, il y en a un qui pose une question, qui dit, mais finalement, ne serais-tu pas le Christ? Jean 1, verset 19. Lisons ensemble Jean 1, 19. Moi j'aime la réponse de Jean-Baptiste. Jean 1, 19. Il lui dit là, Jean 1, verset 19, « Les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander à Jean-Baptiste, « Toi qui es-tu ? » Et il déclara, et le nia point, qu'il n'était pas le Christ. Alors ils lui demandèrent, mais quoi donc ? Es-tu Élie ? Et il dit, non, je ne suis pas Élie. Alors es-tu le prophète ? Et il répondit, non. Ils lui dirent, alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Quelle question! Que dites-vous de vous-même? Quand on vous dit, vous êtes monsieur? Oui, et, alors, on peut dire monsieur Grédère, mais, vous savez, il y a des milieux où c'est bien de dire monsieur le pasteur Grédère. Ou monsieur le directeur. Ou monsieur le docteur, ou tout ce que vous voulez. Parce que derrière cette étiquette-là, on y attribue une valeur. Comme si la valeur était tirée du fait de la fonction qu'on occupe. Celle que j'ai aujourd'hui n'est que prêtée pour un temps. Un jour, je la rendrai. Mais jamais je ne rendrai le fait d'être enfant de Dieu. Je reste et je demeure un enfant de Dieu, aimé par Dieu le Père. Je suis la prunelle de ses yeux. Et des fois, parce que je le suis, des fois il me corrige, comme un bon père qui aime ses enfants et qui les corrige pour qu'ils marchent droit. Mais parce qu'il m'aime aussi, il me chérit. Il me fait du bien. Il me secourt. Alors, que dis-tu de toi-même? Et j'imagine Jean-Baptiste. Il aurait pu se dire finalement, peut-être que finalement, c'est pas faux, hein, peut-être je suis un, voilà, j'ai la foule qui me suit, ça marche bien les prédications, les gens se convertissent, peut-être je suis le Christ. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui écrit dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. On appelle ça un suicide politique. Mais Jean-Baptiste savait qui il était. Voyez-vous, dans Jean 3, verset 30, on retrouve le même dialogue entre des gens qui viennent pour savoir qui il était. Et Jean-Baptiste le rappelle, verset 28, je vous l'ai déjà dit une fois, je ne suis pas le Christ, mais celui... Mais j'étais envoyé devant lui, celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux que je suis, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Mais aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et il rajoute la fameuse phrase qu'on connaît tous, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors ça c'est une phrase terrible. Hein, toute ma vie on m'a dit, il faut que tu grandisses. Faut que tu éblouisses. On ne l'a pas dit, non, le discours sociologique de notre pays, c'est ça. Allez, sois un leader, prouve-toi, impose-toi, montre qui tu es. Voyez-vous, je pense que Jean-Baptiste avait une très bonne identité parce qu'il savait qui il était. Et c'est pour ça qu'il peut dire, tout honnêtement, il faut qu'il croisse et que je diminue. Un orgueilleux ne dit jamais cela. Jamais. Mais Jean-Baptiste savait qui il était. Comment peut-on affirmer, si vous voulez être devant, dirigé, soyez au service des autres. Comment peut-on l'affirmer et le vivre? Si ce n'est que quand on sait qui on est vraiment. Et Jésus a pu le démontrer. Il a lavé les pieds aux apôtres et en même temps il a pu dire « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Je voudrais conclure ce soir en disant la chose suivante. L'important pour nos vies, c'est de glorifier Dieu. L'important dans nos vies, c'est de glorifier Dieu. C'est de vivre une vie qui l'honore. Non pas une vie faite de conflits, ou de craintes, ou de frustrations, mais une vie où finalement on est comme un poisson dans l'eau. On sait qui on sait qui on n'est pas. Et peut-être c'est d'abord de savoir qui on n'est pas. Jean-Baptiste savait qu'il n'était pas le Christ, c'est pour ça qu'il avait pu dire, voilà ce que je suis. Qui es-tu? Ah, je suis madame, une telle... directeur de Carrefour. Des fois, j'ai vu des femmes, et j'en connais quelques-unes, qui vivaient au travers de leur mari. Alors, que vous l'aimiez, que vous l'honoriez, parfait. Que vous le soyez soumise, mais c'est excellent. Vous êtes à promouvoir. Mais si votre mari devient votre Dieu, ça ne marche pas. J'ai vu des femmes qui littéralement étaient des serpillières de leur mari. C'est pas ça une femme. Vous avez votre valeur, votre identité, votre place et votre rôle à jouer. Amen. Et vous avez vous aussi à être ce que Dieu a voulu que vous soyez. Et si vous l'êtes vraiment... Vous ne déshonorerez jamais votre mari. Vous l'honorerez. Amen. Alors, une bonne identité procure de la sécurité intérieure. Je sais qui je ne suis pas, donc c'est pas la peine que je m'inquiète. Moi, je sais que je n'ai pas été appelé à être le pasteur principal de cette église-là. Et vous savez quoi? Ça me fait du bien. Vous savez pourquoi? Parce que la charge est sur lui. Mais malheureusement, j'étais chargé d'autre chose. Je sais qu'à la radio, Dieu me l'a mis sur les épaules. Il y a 8 ans de cela. Et vous savez quoi? Des fois, j'ai envie de dire, mais ce serait bien qu'un autre le prenne. Et Dieu m'a dit, vas-y, fais. je serai avec toi. Savoir qui on est. Du coup, je ne suis pas en compétition avec mon frère, c'est mon frère. Je peux travailler avec lui, même pour lui. Le suivre, être derrière lui, l'appuyer, l'encourager. Être pour lui un soutien et non pas une épine dans le pied. Allô ? Je peux non plus être soumis sans me sentir inférieur. Hello, mesdames. Je voudrais non pas lancer des pics ce soir, mais vraiment nous amener au point suivant. En disant que Christ savait qui il était. C'est pourquoi il avait de l'assurance. Il avait de la paix. Et face au moment où on le contestait, il pouvait dire, non, mais je sais qui je suis. Je suis le Christ, le Fils de Dieu. Alors on te tue. Ok, alors vous me tuez. Mais je resterai le Christ, le Fils de Dieu. Et il l'a prouvé l'être. Et voyez-vous, notre ami Jean-Baptiste, lui aussi, il savait qui il était et qui il n'était pas. Mais tous ces gens-là, Jean-Baptiste, le Christ, Pierre, Paul, Saul de Tarse, qui était prêt à tuer pour sa religion, lorsqu'il va croiser le Christ sur le chemin de Damas, fera une découverte renversante. D'abord, il saura qui il est. Je suis un pécheur. Et rencontre le Christ qui lui dit quel est son plan pour sa vie. Il va révéler à Ananias, un disciple de Damas, voilà, cet homme-là, je l'ai choisi afin qu'il porte mon nom devant toutes les nations et devant des rois et des empereurs. Et je lui montrerai combien il souffrira à cause de mon nom. Souvent, je me suis dit, mais peut-on chanter des louanges au fin fond d'une geôle après avoir pris des coups sur le dos? Peut-on chanter des louanges à Dieu? Enfin, franchement. Mais Paul le pouvait parce qu'il savait qui il était et ce pourquoi il était là. Et que ces coups-là n'étaient pas en vain, mais étaient pour la cause du royaume. Et que ça allait faire avancer la cause du royaume, même au fin fond d'une geôle à Philippe. Et finalement, ces louanges sont montées à Dieu et ça fait trembler la terre. Et ça a libéré Paul et Silas. Et ça a amené le geôlier à la conversion. Dieu seul connaît la raison de votre existence. Dieu seul connaît le but de votre vie et quelle est votre identité. Encore faut-il croiser le Christ. Paul a croisé le Christ. Pierre a croisé le Christ. Jean-Baptiste a croisé le Seigneur. Ésaïe a vu le Seigneur. Et ces hommes, parce qu'ils ont croisé le chemin, leur chemin avec celui du Seigneur, eh bien, ont été littéralement transformés, changés à tout jamais. Était-il parfait pour autant? De loin pas. Pierre, à un moment donné, a même profondément chuté. Mais Jésus reviendra auprès de lui et lui rappellera quelle est son identité. Pierre, paie mes brebis. Pierre, paie mes agneaux. Remets-toi sur orbite. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu es là ce soir et tu te dis, mais ça fait tellement longtemps que j'ai péché. Je ne sais même plus demander pardon à Dieu tellement j'ai péché. J'aimerais te dire, Dieu ce soir t'attend encore. Et il veut te dire, moi je sais pourquoi je t'ai créé. Et ce pourquoi je t'ai appelé. Et je veux t'utiliser dans ce que je t'ai donné à toi. Peut-être tu l'as ce soir, tu n'as jamais entendu parler de ce genre de choses, mais tu sais que tu n'es pas en paix avec toi-même. J'aimerais te dire que tu ne le seras pas tant que tu n'auras pas fait la rencontre avec ton Créateur, celui qui peut te révéler ce pourquoi tu as été créé. D'un pêcheur de poissons, il en fait des pêcheurs d'hommes. D'un réparateur de filets de pêche, il en a fait un apôtre Jean qui, par ses épîtres, a réparé les relations entre les frères. Aimez-vous les uns les autres. Marque-t-il dans ses épîtres. Ce soir, sais-tu qui tu es? Peut-être tu le sais plus, parce que le péché, parce que tu as dérivé. J'aimerais te dire ce soir, reviens au Seigneur. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Le père du fils prodigue attendait le fils. Parce que c'était son fils. Mes filles, si un jour elles font des bêtises, ça restera mes filles. Parce qu'elles sont mes filles. Point à la ligne. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous appelle ses enfants. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il nous appelle ses enfants. Prions ensemble.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.